Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions du Toucan, présentent Les cendres de Berlin, de Luc McCallin, interprété par Julien Campagny. Première partie, au bonheur des morts.
Berlin, début 1947, lundi. Reinhardt en était venu à préférer la nuit. La nuit, tout semblait plus propre, plus net. La nuit, sa ville pouvait parfois ressembler à autre chose qu'à une cité en ruine. La nuit, il ne voyait pas la poussière qui saupoudrait ses vêtements et ses chaussures, les entrailles de sa ville mises à nu et exposées aux yeux de tous. C'était la lumière du jour que Berlin apparaissait défigurée et calcinée, que ses habitants émergeaient pour courir après leur ombre, venant d'on ne savait où pour se rendre on ne savait où, se frayant un chemin au milieu des monticules de décombres racornis qui s'amoncelaient en quinconce sur les bords des routes, lesquelles semblaient serpenter au travers des ruines comme le lit d'une rivière à sec. Il était très tôt ce lundi matin quand l'alerte fut donnée. Un corps retrouvé dans la cage d'escalier d'un immeuble d'habitation du secteur américain de Berlin, dans l'arrondissement de Neukölln. C'était l'heure la pire, au dire de tous. L'heure dont personne ne voulait. L'heure où les hommes mariés dormaient dans les bras de leurs femmes, les célibataires dans ceux de leurs petites amies, et où les ivrognes eux-mêmes se trouvaient un coin pour somnoler. C'était l'heure à laquelle travaillait ce que le chef avait inscrit sur sa liste noire. C'était l'heure qui échoyait aux stagiaires, ceux encore trop jeunes dans le poste pour se ménager un horaire plus commode, ou ceux trop âgés qui n'avaient aucun endroit où aller. Reinhardt savait qu'il entrait plutôt dans la seconde catégorie. Mais quel que fût l'avis des autres sur le travail matinal, lui préférait travailler tôt. Il pouvait profiter du calme, et avoir la salle de la brigade presque pour lui seul, ou sortir arpenter les rues et les avenues plongées dans l'obscurité et se faufiler parmi les éboulis de briques et de gravats pour découvrir la nouvelle architecture des façades de Berlin façonnées par la guerre. Sa ville et lui étaient devenus des étrangers l'un pour l'autre, il en était conscient. Ils avaient pris des chemins différents, et ces heures nocturnes, ces heures mortes de la nuit durant lesquelles il lui arrivait de chercher la lune au milieu des silhouettes déchiquetées des bâtiments, de l'apercevoir au travers des fissures qui déchiraient les édifices, de contempler ces jeux d'ombre et de lumière à des endroits où elle n'aurait jamais dû briller, lui était nécessaire pour la redécouvrir, pour la découvrir telle qu'elle était à présent. Ses préoccupations, cependant, n'avaient pas leur place dans son esprit alors que l'ambulance descendait la rue, précédée de l'éclat terne de ses phares. La chaussée déblayée en son milieu était criblée de trous d'obus, parsemée de débris et bordée des contours menaçants des ruines. Il aperçut le bâtiment un peu plus haut. Les faisceaux intermittents de lampes torches, ronds comme des jaunes d'œufs, oscillait dans le hall d'entrée et projetait les ombres mouvantes sur les murs et jusque dans la rue. Il descendit de l'ambulance avec raideur et alluma sa propre lampe avant de s'engager dans le passage ménagé entre les décombres. Il s'arrêta et balaya l'entrée d'un immeuble en ruine du faisceau de sa lampe de l'autre côté de la rue. Tapis dans l'ombre, des enfants observaient la scène de leurs yeux brillants. Ils disparurent quand la lumière s'attarda trop longtemps sur eux. Un agent vêtu d'un uniforme archaïque et coiffé d'un shako gris orné d'une plaque en laiton regarda Reinhardt ranger sa lampe et taper du pied le sol du vestibule pour épousseter ses chaussures. « On allait envoyer chercher les gars de l'AMP, mais on dirait que les requins se sont pointés d'eux-mêmes », lança le jeune agent avec sarcasme. « De quel poste de police dépendez-vous ?» Reuterstrasse, répondit le policier dans une grimace suspicieuse. « Je veux parler aux responsables, » dit Reinhardt en soutenant le regard de l'agent alors qu'il ôtait sa casquette. Le visage du jeune homme s'assombrit, mais il passa la tête à l'intérieur. « Sergent ! Sergent !» Un deuxième agent s'extirpa de la foule qui se massait dans le hall d'entrée. Reinhardt crut le reconnaître. La cinquantaine, grand et dégingandé, affublé de favoris à l'ancienne. Mais si c'était bien lui, il avait perdu en masse. « La cavalerie est là, sergent !» dit le jeune agent. Reinhardt l'ignora alors que le sergent jetait à son jeune collègue un regard plein de reproches. « Bonjour, monsieur, » dit l'homme. « Ce que l'agent Dischle voulait dire, monsieur, c'est qu'on allait appeler les Amerlock. Pardon, la police militaire américaine. On ne savait pas encore si quelqu'un de la Kripo allait venir. » « Il se trouve que certains inspecteurs sont déjà debout, » fit savoir Reinhardt dans un sourire, avec une voix douce. « Inspecteur Reinhardt, de la Kripo, division de Schoenberg. » « Bien, monsieur. Ne le prenez pas mal si on est surpris de vous voir, monsieur. » « Comment se fait-il ? » « Ben, en général, il se déplace pas pour les accidents ou les affaires faciles à résoudre, » répondit Dischle. « Encore moins à cette heure. » « Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il s'agit de l'une de ces deux situations ?»« Mais il était sous et il est tombé dans l'escalier !» grogna Dischle. « Faut pas chercher plus loin. »« Montrez-moi ce que vous avez trouvé. » Sergent Frunze, c'est ça ? Reinhardt venait de se souvenir du nom de l'homme comme s'il lui était subitement revenu sur le bout de la langue. Quelque chose dans son apparence, ses favoris à l'ancienne, son accent, lui remémora un escadron de policiers en difficulté tentant de repousser une horde bouillonnante de nazis et de communistes. Et Frunze, qui s'éloignait avec du sang sur les joues et un voyou en chemise marron sous le bras, son visage virant au cramoisi, au creux du bras du policier qui lui énumérait calmement ses droits. « C'est cela, monsieur, Frunze. Ravi de voir que vous vous rappelez, monsieur, » dit-il sans prêter attention à son jeune collègue qui roulait des yeux. « Par ici, monsieur. » « La dernière fois que je vous ai vu, vous étiez dans l'un des postes de Tiergarten. » « Le temps a passé, monsieur. Ces temps-ci, on va où on nous dit d'aller. » répondit Frunze en décochant un bref coup d'œil à Reinhardt. Reinhardt n'aurait su dire ce que ce regard signifiait, mais un officier aussi expérimenté que Frunze, en particulier à son âge, n'aurait pas dû être de garde en pleine nuit dans un endroit comme Neukölln. Ce quartier avait toujours été difficile. Des gauchistes, des ouvriers, qui ne tenaient pas les flics en odeur de sainteté. Les choses n'avaient pas dû beaucoup changer, se dit-il en s'avançant au milieu du petit attroupement, suivant Frunze jusqu'au bas des marches, où gisait le corps d'un homme étendu sur le dos. L'entrée était éclairée par un mélange ondoyant de lampes torches, de bougies et de lanternes tenues par les policiers et les civils, hommes, femmes et enfants, regroupés sur le bord de l'escalier. Dans ce jeu d'ombre confus, Reinhardt distingua le visage du mort, à la faveur d'une lueur parcimonieuse. Le nez et la bouche étaient huméfiés et contusionnés. Un magma de sang qui s'épanouissait vers son menton et sa mâchoire, imbibant ses vêtements du côté de son épaule gauche. Il portait des égratignures et des plaies sur la figure, le crâne et les mains, et la peau de ses articulations était à vif. Les yeux de Reinhardt se portèrent à nouveau sur les blessures autour du nez et de la bouche, bordées de marbrures noires et bleues, indiquant qu'elles avaient été infligées quelque temps avant la mort. S'il se les était faites en tombant dans l'escalier, il avait dû rester étendu là un bon moment avant de mourir. Or, il n'y avait aucune mare de sang pour ce qu'il en voyait. « Le médecin légiste est arrivé ?»« Non, monsieur. »« Ce devrait être Berthold. Je l'ai appelé avant de partir. »« Des papiers d'identité sur le corps ?»« Aucun, monsieur. »« Des clés ? De l'argent ?» Rien, monsieur. Reinhardt enfila une fine paire de vieux gants de cuir et tendit la main vers la nuque du mort pour la soulever avec précaution. La tête ne suivit pas le mouvement et oscilla de droite à gauche. La nuque brisée, monsieur ? demanda Frunze. Il semblerait. A-t-on trouvé une bouteille ?
Non, monsieur, soupira Frunze.
Mais notre homme sent l'alcool. Je crois qu'il en a renversé un peu sur ses vêtements. Mais, dis-je-le à beau dire, je pense que ce n'est pas une affaire aussi évidente qu'elle en a l'air.
Non, probablement pas.
Qui l'a trouvé, sergent ? Reinhardt se déplaça délicatement et palpa les bras de l'homme, qui se soulevèrent lourdement.
Le concierge de l'immeuble, du moins ce qui en tient lieu actuellement, monsieur. C'est lui.
Frunze lui indiqua un vieil homme à la robe de chambre élimée. Une couronne de cheveux argentés et emmêlés lui encerclait le crâne d'une oreille à l'autre et une écharpe était serrée autour de son cou.
« Il s'appelle Horst, » indiqua le sergent.
« Monsieur Horst, » l'aborda Reinhardt, qui sentit une douleur traverser son genou gauche alors qu'il s'agenouillait. « Dites-moi ce que vous avez vu et entendu. » Tout en parlant, il palpa les vêtements du mort, avec une précaution redoublée lorsqu'il approcha ses doigts du col de son pardessus. Certains hommes, en particulier les trafiquants et les criminels, étaient connus pour coudre des lames de rasoir sous leurs revers, mais il ne trouva rien. Reinhardt passa la main sur l'étoffe du manteau, sur sa chemise, sur la cravate aux nœuds lâches qui pendait sous son menton.
« Oui, monsieur, voilà, il devait être à peu près 2 heures du matin quand j'ai entendu un homme appeler à l'aide, puis un horrible bruit sourd. Il y a eu un autre cri, quand le pauvre homme a chuté sur le sol, je présume, et puis plus rien. Je suis sorti de ma chambre, juste là,
expliqua-t-il en montrant une porte entrouverte près de l'entrée.
Et je l'ai trouvé. »
Reinhardt éclaira l'escalier de sa lampe, dont la lumière lui renvoya le miroitement d'une substance humide à mi-hauteur.
« Vous l'aviez déjà vu auparavant ?»
Horst secoua négativement la tête.
« Vous êtes sûr ? Ce n'était pas un locataire ? Ou une personne déplacée que la municipalité avait installée ici dernièrement ?»
Horst répondit non de la tête à chacune des questions.
« Ce n'est pas un déplacé, monsieur, » assura Frunze, qui, devant l'invitation de Reinhardt à poursuivre, pointa du doigt le manteau et les chaussures du mort.
« C'est de la qualité. On ne trouve pas ce genre d'article à Berlin de nos jours. Si c'est un déplacé, il est bien loti. »«
Merci, sergent, »
dit Reinhardt, guettant Dischle qui suivait leur discussion du coin de l'œil. L'homme n'était pas une personne déplacée. Reinhardt en était sûr. Ses vêtements étaient de trop bonne facture, ses ongles trop soignés. Quant à ses cheveux, il les avait fait couper récemment et avec soin. Il était bien nourri, comme en témoignait le poids de ses membres et la texture de sa peau.
« Ces gens-là, » dit-il à Horst, « les occupants de l'immeuble ?»«
Oui, monsieur. »
L'un d'eux a-t-il remarqué quelque chose ?
La question s'adressait à Horst et Frunze.
« Rien, monsieur, » répondit le sergent. Un ou deux disent avoir été réveillés par le bruit de la chute, mais il y en a une qui prétend qu'elle aurait déjà vu l'homme par le passé.
Faites-la venir, je vous prie.
Tous les occupants de l'immeuble sont-ils ici, Horst ?
Pas tous, monsieur. Certains travaillent de nuit, et il y en a un qui est en voyage.
Frunze revint en compagnie d'une femme qui tenait un bébé dans les bras, 2 autres enfants dans son sillage.
Madame, commença Reinhardt. « Vous avez dit à la police que vous auriez déjà vu cet homme ?»«
Je crois, oui. Une ou deux fois. La dernière, c'était il y a peut-être 2 jours, et à chaque fois, c'était dans l'escalier. »«
Vous êtes-vous parlé ?»«
Seulement pour nous dire bonjour, rien de plus. »«
Avez-vous remarqué quelque chose de particulier ?»«
Comme quoi ?»«
N'importe quoi. Était-il pressé ? Semblait-il inquiet ?»«
Non, rien. On n'a fait que se croiser. »«
Merci, madame. »«
Vous pourrez tous retourner vous coucher très bientôt. » dit Reinhardt avec un sourire pour le petit garçon aux cheveux ébouriffés.
« Avez-vous été inspecter l'étage, sergent ?»«
Pas vraiment, monsieur. Nous ne voulions rien déranger avant l'arrivée des inspecteurs. »«
Très bien. Allons jeter un œil maintenant. Horst, venez avec moi, s'il vous plaît. Dischle, veuillez demander aux ambulanciers d'attendre Bertholdt avant de déplacer le corps. Et, Dischle, j'ai vu des enfants dehors, sans doute des sans-abri qui vivent en face. Voyez si vous arrivez à en convaincre un ou deux de nous parler.
Et, Dischle !»
insista-t-il alors que le visage du jeune agent s'assombrissait de nouveau.
Pas de violence. Contentez-vous de leur poser la question. Reinhardt s'engagea dans l'escalier, balayant chaque marche du faisceau de sa lampe. Il dépassa les premières traces de sang qu'il avait vues depuis le rez-de-chaussée vers le milieu de l'escalier. Sur le palier intermédiaire, à l'endroit où l'escalier tournait légèrement avant de continuer à monter, il trouva d'autres éclaboussures sur le sol et une traînée sur la rampe, comme si un homme s'était tenu là, reprenant son souffle, appelant peut-être à l'aide, se débattant avec la douleur. Il grimpa encore, la poussière et les petits morceaux de plâtre dispersés sur les marches craquant sous ses semelles, et découvrit d'autres traces, d'autres traînées sur le bois du garde-corps. Le palier du premier étage desservait deux portes, et Horst lui confirma que les occupants de ces appartements, la femme aux trois enfants à qui Reinhardt avait parlé et un couple de personnes âgées, étaient en bas. Avec l'impression d'être Hansel suivant ses cailloux blancs, Reinhardt poursuivit son ascension vers le deuxième étage. L'odeur du bâtiment se fit plus forte autour de lui. Un fumet de gens entassés les uns sur les autres, de linge humide et de mauvaise cuisine. Sur le palier du deuxième, Horst l'informa que les locataires, un veuf et une autre famille, se trouvaient eux aussi au rez-de-chaussée.
« Les femmes vivent toutes aux deux premiers étages. Pour ce qui est du troisième, là, l'immeuble est dans un sale état. Il n'a pas été complètement réparé, vous allez voir. »
Au troisième étage, l'immeuble présentait un jour différent, avec ses murs lézardés d'un réseau labyrinthique de fissures et d'anfractuosités. Aux dégâts subis venaient s'ajouter des contraintes résiduelles. Dans les coins des marches et des paliers s'accumulaient de petits tas de poussière et de débris repoussés sur les côtés. Un courant d'air tournoyait entre les murs en provenance du plafond. Un seul appartement était habité. Un homme parti en voyage. L'autre était condamné, les dégâts l'ayant rendu inhabitable, à en croire Horst. Il en allait de même pour les deux appartements du dessus, affirma le petit concierge qui haletait derrière Reinhardt, sa robe de chambre levée pour l'éloigner de ses pantoufles. Plus l'état de l'immeuble se dégradait, plus les lieux semblaient empestés et s'assombrir. L'ombre guettait leurs pas et donnait l'impression de battre silencieusement en retraite, s'écartant de Reinhardt avec prudence, comme si tout l'édifice ressentait le mal que les hommes lui avaient causé. Au quatrième étage, Horst montra un appartement fermé à clé dont l'occupant, un monsieur Houtman, travaillait de nuit sur les chemins de fer. Il restait encore un étage, et Reinhardt fit une pause sur le palier, le regard posé sur la porte entrouverte qui oscillait dans le courant d'air. « Qui vit ici ?» Horst reprit son souffle, appuyé sur la rampe.
« Monsieur Noyel, parvient-il à articuler. Il vit seul.
Il n'est pas en bas ?» demanda Reinhardt. Il avait le souffle court et s'efforça de le cacher. La tête lui tournait après l'ascension de l'escalier.
« Non, il sort quelquefois. Je me suis dit... »
souffla Horst.
« Je me suis dit que son absence en bas n'avait rien d'extraordinaire. »
« Et le cadavre dans le hall d'entrée n'est pas celui de ce Noyel ?»«
Non. »
Reinhardt balaya le plancher de sa lampe. Il suivit son faisceau des yeux, se demandant si les traces au milieu des morceaux de plâtre et de briques indiquaient que quelqu'un était passé par là. « Bien. Voyons s'il connaissait votre monsieur Noyel. » Il brandit sa matraque de policier et la déploya sur toute sa longueur. Puis, de la boule de plomb fixée à son extrémité, il poussa la porte. Le premier reflet que lui renvoya la lumière fut celui d'une traînée de sang sur le mur, s'étendant vers le bas à hauteur d'homme. Il vit un interrupteur qu'il actionna. L'unique ampoule de la pièce s'alluma en clignotant. L'une des fenêtres était intacte, l'autre avait été calfeutrée avec des planches et des morceaux de carton empruntés à des paquets estampillés « CARE », du ravitaillement envoyé par les États-Unis, à travers lequel le vent soufflait avec insistance. Il avisa un sofa et un fauteuil qui avaient connu des jours meilleurs. Sur une table arrangée à partir d'un cageot étaient posées une bouteille et un verre. Reinhardt traversa la pièce sur ses gardes. Il passa par un petit coin cuisine guère plus qu'une alcôve équipée d'un évier et d'un réchaud, avant de pénétrer dans une chambre. Il y trouva un lit sur lequel étaient empilées des couvertures et des oreillers, repoussés contre le mur du fond auprès d'une armoire en bois de guingois dont l'un des miroirs était brisé. Un corps gisait sur le plancher. Bras et jambes en étoile, le visage mollement tourné vers le plafond.
« Oh, ça !»
dit Horst en regardant par-dessus l'épaule de Reinhardt.
« C'est Monsieur Neuel !»